10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans 10 minutes, juste après le journal, vos réactions après les accusations du nouveau régime au Sénégal. Mensonges, falsification des chiffres, corruption généralisée. Voilà ce qu'aurait commis le régime de l'ancien président Macky Sall. Mais d'abord donc, Nemo en piste pour les dernières informations. Bonjour Nemo.
Bonjour Juan et bonjour à tous. À la une de ce journal, cette agression qui a visé le député sénégalais Guy Marius Sagna à l'occasion d'une réunion publique tenue à Lomé au Togo. Des gros bras, précise notre correspondant, ont infiltré la foule avant de repartir visage découvert. Au total, 7 blessés répertoriés. Les fortes attentes des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui se referment les journées nationales du cacao et du chocolat. On connaîtra donc bientôt le prix minimum du kilo pour la saison 2024-2025. Reportage à Abidjan. Et puis la colère des étudiants malgaches dans ce journal également. Ils ont posé un ultimatum aux dirigeants de l'enseignement supérieur. Concernant les coupures récurrentes d'électricité, ces derniers jours, des manifestations spontanées ont été déclenchées dans les rues de la capitale. C'est une rencontre politique qui a tourné à l'agression à Lomé, alors que se tenait dans la capitale togolaise une session délocalisée du Parlement de la CDAO. Le député sénégalais Guy Marius Sagna a participé ce dimanche à une réunion publique avec la plateforme d'opposition locale, DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Mais les échanges ont donc tourné court puisque des intrus s'en sont violemment pris à lui. Blessé, il a été transporté dans une clinique de Lomé. Le récit de notre correspondant sur place, Peter Sassou Dogbé.
Guy Marius Sagna a à peine pris la parole pour demander l'exécution de l'hymne national du Togo que la première chaise est jetée. Une première, puis une deuxième. Et c'est la débandade. Les chaises sont cassées, le matériel de sonorisation et les enregistreurs des journalistes sont jetés dans un puits, les portables arrachés. Les militants se dispersent dans la confusion. Des gros bras ont infiltré la foule et dehors, les vitres de véhicules sont pulvérisées à coups de parpaing. Les casseurs s'en prennent au député sénégalais Guy Marius Sagna. Il est blessé au bras, la tête ensanglantée. Il est transporté à Dodome vers une clinique voisine pour y être soigné. Dans les couloirs de la clinique, il raconte l'agression.
Vous savez ce qu'il me disait en me battant ? Vous êtes togolais ? Vous êtes togolais ? Vous êtes togolais ? Comme s'il me reprochait d'avoir revendiqué ma togolité. Aujourd'hui, plus que jamais, malgré cette violence, je reste togolais. Je serai aux côtés du brave peuple togolais jusqu'à ce que le pouvoir en place respecte le peuple togolais.
On dénombre au moins 7 blessés, parmi lesquels Brigitte Kafuya Damago Johnson, son chauffeur, un autre journaliste d'une radio locale. Les gros bras sont repartis, visage découvert, à travers les rues du quartier de Bay. Peter Sassou Dogbé Lomé, RFI.
Guy Marius Sagna qui a réagi ce matin sur RFI. La CDAO ne doit plus continuer à tourner le regard et à faire la politique de l'autruche par rapport à ce qui se passe au Togo, a-t-il lancé au micro de notre correspondant. Vous retrouvez son témoignage complet sur RFI.fr. Le Sénégal a entamé depuis quelques semaines déjà, selon le président Bassirou Diomaye Faye, une revue des contrats et accords signés avec des partenaires étrangers. Si ces derniers n'ont pas respecté les engagements et les obligations que la loi leur impose dans le pays, il va falloir revenir à une plus grande équité et un plus grand équilibre contractuel, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne Al Jazeera. Le Sénégal, vous en parlez avec Juan Gomez dans la deuxième partie d'appel sur l'actualité. Ce sera juste après ce journal. En Côte d'Ivoire, les JNCC, Journée Nationale du Cacao et du Chocolat, s'achèvent aujourd'hui au Parc des Expositions d'Abidjan. Un salon professionnel pour la filière qui fait vivre quelques 6 millions de personnes dans le pays, soit un quart de la population du premier producteur de cacao. Fin de ces journées avec en point d'orgue l'annonce à venir du prix minimum garanti du kilo de cacao pour la saison 2024-2025 dans un contexte mondial de flambée des cours du produit. Les attentes des planteurs sont donc fortes. Benoît Almeras en a rencontré à Abidjan.
Ils sont arrivés en bus et en masse de toute la boucle du cacao, Boaké, San Pedro ou encore Boiflé comme Viviane Goran. Dans sa robe colorée, cette productrice résume le souhait de sa profession.
Et nous voulons avoir un bon prix pour que nous quittions la pauvreté et se prennent en charge. Parce qu'il faut reconnaître qu'être productrice, ce n'est pas facile.
Attente décuplée depuis qu'au Ghana, le kilo de cacao a grimpé de 45% à 1800 francs CFA désormais. Et dans ce contexte, plusieurs partis et syndicats ivoiriens réclament une augmentation inédite du prix minimum. Dans les travées du salon, Kobe Nankwasi Adjoumani enchaîne les poignées de main. Le ministre d'État en charge de l'agriculture temporise.
Il y a des gens qui n'ont aucune notion de ce processus et qui peuvent donner des montants qui n'ont rien à voir avec la réalité.
À ses côtés, Yves Brahim Akone, le directeur général du Conseil du Café Cacao, demande la confiance des planteurs.
Nous ne faisons que faire notre travail et nous avons conscience que nous faisons correctement notre travail. On n'a jamais déçu les planteurs de Côte d'Ivoire et ne seront pas déçus.
L'an dernier, le prix minimum garanti du cacao avait été fixé à 1000 francs CFA le kilo. Benoît Almeras, Abidjan. RFI.
Nouveau drame de la migration au large de l'archipel espagnol des Canaries. Dans la nuit de vendredi à samedi, une pirogue avec à son bord environ 90 candidats à la traversée vers l'Europe s'est renversée. Depuis, 27 personnes ont pu être secourues, mais 9 corps sans vie ont été immédiatement repêchés. Pas de nouvelles découvertes hier, malgré un deuxième jour de recherche en mer. Au moins 48 migrants sont toujours portés disparus. Selon les autorités espagnoles, l'embarcation était partie de Ouadibou, en Mauritanie, à quelques 800 km. De là. La suite de cette édition à Madagascar, où des manifestations spontanées ont éclaté ces derniers jours dans la capitale. Les voix s'élèvent contre les délestages à Ankatsé, notamment la plus grande université publique du pays. Des étudiants ont brûlé des pneus et érigé des barrages en pierre vendredi. Dans la foulée, un ultimatum a été lancé aux responsables de l'enseignement supérieur. Réduire d'ici aujourd'hui l'ampleur des coupures d'électricité trop connues des étudiants est devenue encore plus fréquente ces dernières semaines. Pauline Letrouquier s'est rendue au sein de la cité universitaire en 4C2 à Antananarive. Reportage.
Au pied de ce nouveau bâtiment, les façades peintes de rose et orange vif tranchent avec la vétusté des logements étudiants alentour. Inauguré en novembre, l'immeuble est dit Manara Pench, aux normes en malgache, un concept cher au président Andrazoel. Pourtant, l'électricité y est instable et largement insuffisante pour faire vivre les étudiants.
Vous voyez là-bas, il y a du trace de brûlure à cause du court-circuit.
Une situation qui oblige les locataires à braver les interdits, comme le confie depuis sa chambre de 9 mètres carrés, Ignark, président des étudiants de l'immeuble.
On utilise des bouteilles de gaz ou des réchauds à charbon pour cuire nos repas, alors que c'est formellement interdit dans le protocole. Mais le peu d'électricité qu'on a ici sert aux éclairages dans les couloirs. Et quand tout le monde l'utilise, ça disjoncte.
Quelques blocs plus loin, dans un autre logement étudiant, Taïne frotte sa lessive. Pour cette étudiante en médecine, les 6 heures quotidiennes de délestage sont devenues intenables.
L'électricité coupe deux fois. Je ne mange rien. Je suis privée de nourriture. J'allais juste au cours, mais après, il y a le risque d'hypoglycémie et diminution de concentration.
Le sol du campus est encore marqué par les traces de pneus brûlés des récentes manifestations qui semblent, de l'avis des étudiants, le seul moyen de faire entendre aux dirigeants leur souffrance. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Radio France Internationale, 9h38 à Abuja, la fin de cette dernière édition d'Afrique Matin au Nigeria, où les avocats du chef séparatiste Nnamdi Kanu dénoncent la violation de ses droits. En fin de semaine dernière, 4 membres de la défense du leader Biafré se sont vus refuser l'accès à leurs clients. Le concerné est détenu depuis 3 ans, pour rappel, à Abuja par les services de renseignement. Et aucune explication n'a été donnée pour ce refus. Il intervient après la récusation de la juge principale, soupçonné de partialité dans le procès pour terrorisme du leader du mouvement indépendantiste. Aloy Ejimakor est l'un des avocats de Nnamdi Kanu. Lui l'assure, les deux événements sont liés.
Il y a une animosité, une hostilité qui a pu naître de ce qui s'est passé au tribunal le 24 septembre. Monsieur Kanu a demandé à la juge de se récuser et il a déclaré catégoriquement qu'il n'avait plus confiance dans le tribunal et dans ce juge en particulier, et que son procès devrait être transféré à un autre juge. L'attitude des autorités a changé à ce moment-là. Il n'est pas normal qu'un service de l'État viole les droits des gens. Le service de renseignement a toujours désobéi aux décisions de justice en ce qui concerne M. Kanu. Nous croyons que c'est à cause de la région du Nigeria d'où il vient. Comment allons-nous faire pour voir notre client? Nous ne pouvons pas ramper par la fenêtre. Cette affaire est très médiatisée. Nous avons donc besoin de garanties du service de renseignement que nous aurons un accès à notre client.
Aloy Ejimakor, avocat de Nnamdi Kanu, joint par Christina Okello. C'est à vous, Juan Gomez, pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité.
Merci.